À mes auditeurs, bienvenue dans cette nouvelle émission Témoignages chrétiens. Marie avec vous aujourd'hui pour vous présenter donc deux témoins. Découvrons la personnalité de Monique Faure qui œuvre discrètement à faire de nos célébrations des moments de joie et de prière. Cette semaine, place aux fleurs, donc avec Monique Faure qui fait entrer la nature dans l'église depuis de longues années. Elle nous dit: si je n'avais reçu que le catéchisme d'avant le concile, je peux vous dire que je ne serais plus dans l'église d'aujourd'hui. Dieu merci, mes parents avaient une confiance folle en la providence et une foi ouverte sur le monde. Jeune fille, maman faisait d'ailleurs partie de la jeunesse étudiante chrétienne, la JEC. Ils étaient proches d'un abbé, un homme très ouvert qui venait souvent à la maison. Un jour où j'avais besoin de parler, nous sommes allés prendre un verre tous les deux. La discussion s'est transformée d'elle-même en révision de vie et elle s'est terminée par le sacrement de réconciliation. Oui, l'abbé ne m'a pas confessé dans une boîte à péché mortel, comprenez le confessionnal, mais sur le bord d'une table, dans un bar au cœur du monde. À l'école d'éducateurs spécialisés où j'ai étudié ensuite, nous avions un professeur de psychopédagogie extraordinaire. C'était un salésien. Le métro était son principal terrain d'observation. Et il débutait ses cours ainsi. Dieu ne vous dit pas « fais ci, fais pas ça ». Il vous invite à entrer dans son grand programme d'amour. Quelle bonne nouvelle ! Près de 60 ans se sont écoulés depuis et l'Église est toujours coincée dans des carcans pleins d'interdits et d'obligations. Et moi, ça m'embête un peu. Le 31 juillet 1974, je me suis mariée avec Nicolas et un mois plus tard, nous partions comme missionnaires laïcs en République centrafricaine. Le voyage de noces a duré 2 ans. Nous étions basés à Bossangoa, à 300 km au nord de Bangui, dans une communauté de capucins. Je faisais de l'animation rurale et Nicolas était professeur dans un collège, le petit séminaire, comme il disait. Avec nos amis missionnaires, nous avons appris le vivre avec. Il n'était pas question d'apporter aux habitants notre technique, notre savoir ou nos idées, mais de marcher et de grandir avec eux. Nous avons reçu énormément en observant la réalité des communautés chrétiennes en brousse africaine. Pendant l'absence du prêtre, 3 ou 6 mois, voire 1 an, elle ne se tournait pas les pouces, la mine défaite. Au contraire, portée par les catéchistes qui sont en Afrique des acteurs incontournables de la vie pastorale, elle vivait des choses fortes que le prêtre rassemblait dans une grande célébration lors de son passage. En France, il serait temps que nos communautés, elles aussi, se prennent en main. J'ai commencé à m'investir dans la liturgie à Bossangoa et j'y ai pris goût autant que mon mari. Au fond, c'est par la liturgie que je suis vraiment revenue dans l'Église. Peu après notre installation en région parisienne, nous avons ainsi rejoint une équipe au Centre national de pastorale liturgique, l'ancêtre du Service national de la pastorale liturgique et sacramentelle. Elle était animée par le père Joseph Gélineau, qui fut l'un des principaux artisans de la réforme liturgique en France. Il nous a rapidement proposé d'assurer des cycles de formation. Nicolas pour le chant, moi pour la proclamation de la parole. Dans ce cadre-là, j'ai aussi monté l'atelier esthétique dans la célébration. L'art floral liturgique commençait seulement à pointer son nez dans les diocèses. Soigner la beauté de la liturgie m'est apparu encore plus essentiel quand nous avons déménagé dans la ville nouvelle d'Évry, dans l'Essonne. La cathédrale n'était pas encore construite, si bien que pour les grandes célébrations, on devait investir une salle des fêtes ou un gymnase. Pour transformer ces espaces sans âme en lieux propices à la prière, je ne trouvais pas de meilleur moyen que d'y faire entrer la nature. D'aussi loin que je m'en souvienne, j'ai toujours aimé cueillir des fleurs. Maman adorait en planter pour que je puisse composer des bouquets et les mettre ensuite dans sa maison. Elle a entretenu ce petit jeu entre nous chaque fois que je lui rendais visite. En 1987, nous avons repris la maison de mes parents à Planfoix, au sud de Saint-Étienne, dans la Loire. Ce jardin que ma mère aimait tant, j'ai à cœur de continuer à l'entretenir et à l'embellir. Dès que nous sommes revenus dans la région, nous avons repris contact avec l'abbaye cistercienne de Tamiers, en Savoie. Mon mari et moi étions liés à cette communauté depuis notre jeunesse. J'ai eu la chance, en 1989, de participer à une retraite florale prêchée par Frère Didier, moine artiste de Tamiers. Jusque-là, ma manière de fleurir en liturgie, c'est l'expression consacrée, était intuitive, empirique. Frère Didier l'a évangélisé, pour ainsi dire. Il m'a fait comprendre que les compositions florales liturgiques doivent évoquer le mystère pascal, le servir pour que chaque fidèle puisse entrer dans l'alliance nouvelle que Jésus a scellée par sa mort et sa résurrection. Elles sont donc bien plus que des éléments de déco. Elles sont là pour nous ouvrir à l'invisible, nous tourner vers la prière, conduire notre regard vers le tout autre que nous venons rencontrer. C'est de l'ordre du sacrement, rien de moins. Et quand je pense que dans l'organigramme de nombre de paroisses, le fleurissement fait partie de l'entretien ou de la décoration de l'église, il y a encore du boulot pour que tous les fidèles prennent conscience que les fleurs s'inscrivent pleinement dans l'action liturgique. J'essaye d'œuvrer, à ma petite mesure, en ce sens, depuis que je suis responsable de la commission « Fleurir en liturgie » du diocèse de Saint-Étienne. Lors des formations que j'organise deux fois par an, j'aime approfondir les trois mots sur lesquels Frère Didier insiste : accueillir, transfigurer, offrir. Accueillir, c'est prendre le temps de contempler la nature, de s'émerveiller devant tant de beauté et de recueillir le souffle de la création. Transfigurer ne veut pas dire tout chambouler, mais plutôt mettre en œuvre la beauté de la nature, la révéler en créant avec Dieu. Enfin, offrir, c'est rendre grâce au Créateur de qui nous recevons ces merveilles par lesquelles il manifeste sa bonté. J'ai expérimenté au fil des années combien il était important de partir de la parole de Dieu. Lorsque l'on me demande de fleurir la cathédrale pour la messe chrismale, par exemple, ou pour la veillée pascale, je commence par m'imprégner des textes bibliques, même si je crois les connaître par cœur. Je les rumine dans la prière. Ensuite seulement, je m'élance dans la montagne, la forêt ou la campagne pour butiner. Et là aussi, je me mets à l'écoute de Dieu qui parle dans le grand livre de la création. Je me mets au diapason de la nature. Je la reçois telle qu'elle se présente à moi, afin de respecter son langage. Ainsi, avant de couper des branches, j'observe comment elles ont poussé pour ne pas les disposer à l'envers au moment de faire le bouquet. De même, mettre un glaïeul la tête en bas, ce n'est pas transfiguré, c'est déformé. Tout le défi, ensuite, est de composer un bouquet de sorte qu'il transmette le message de l'amour de Dieu. Frère Didier, lui encore, insiste sur deux mouvements. L'enracinement, qui dit que Dieu vient nous aimer au plus profond de nous-mêmes, et l'élévation, qui dit que Dieu vient nous emmener dans sa gloire. J'apprécie particulièrement les pierres, le bois et les poteries pour signifier la terre. J'en ai toute une collection chez moi. Et pour dire l'élan vers le ciel, suggérer la croix ou exprimer l'eau qui jaillit, on peut utiliser des branches de feuillage. Reste à déposer dans cet écrin naturel une, deux ou trois fleurs, rarement plus. La sobriété à laquelle nous invite l'encyclique Laudato Si est très précieuse en liturgie parce que Dieu a besoin d'espace pour parler. Quelque chose de trop sophistiqué ou d'élaboré pourrait arrêter le regard et donc le détourner de l'essentiel. Cela dit, l'abondance est la bienvenue pour certaines grandes fêtes. J'ai un vieux prunier dans mon jardin qui ne me donne pas de fruits mais des fleurs. Pendant le carême, je le surveille du coin de l'œil et un peu avant Pâques, j'en cueille quelques branches. Je les garde au chaud dans l'eau pour qu'elles fleurissent et ainsi, je les ai juste à point pour la vigile pascale. J'aime beaucoup les arbres ou les plantes dont les fleurs apparaissent avant les feuilles, comme les fruitiers, les magnolias de printemps ou les forsythias. Pourquoi ? Parce qu'un bois mort qui refleurit me parle avec force de la résurrection. C'est le verset de ce chant qui me revient toujours en tête quand je compose un bouquet pour Pâques. L'arbre de la mort, par nous, a refleuri. Notre deuxième témoin, Agnès Charlemagne, cette auteure et animatrice d'ateliers de catéchèse, a imaginé une méthode d'éveil spirituel inspirée de la pédagogie Montessori pour inviter jeunes et moins jeunes à devenir acteurs de leur apprentissage de la foi. Tout part de la pédagogie même de Jésus qui s'adresse toujours à nous par des questionnements intimes, dit-elle. Quand il dit « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» Luc 18, 41. Il instaure un dialogue entre Dieu fait homme et la personne qu'il a en face de lui. Ce dialogue est fondateur. Dans la Bible, Dieu parle en « je » seulement après avoir parlé à Adam. Nous sommes dans une religion de la relation. Dans les ateliers que j'anime pour enfants, adolescents et depuis peu aussi pour adultes, j'ai à cœur de favoriser la parole, de laisser émerger les questionnements de l'autre, qui viennent aussi me questionner en retour. Trop souvent, l'explication tue. Elle recouvre la parole de mots trompeurs ou inadaptés et elle empêche la vérité de jaillir. Je me place en position de chef d'orchestre d'une parole qui circule. Chaque atelier commence par des phrases écrites par des participants d'un précédent atelier, qui sont lues à haute voix et de manière anonyme. Cela permet ensuite aux jeunes de se révéler de diverses manières. En étant d'accord ou pas d'accord, cela crée un écho chez eux. Par exemple, récemment, j'ai reçu cette phrase. C'est comme un vieil homme qui va mourir, il a toujours eu les clés dans sa poche, mais il ne s'en est jamais servi. Cela me fait penser à Jacob qui s'écrie « Vraiment, le Seigneur est ici, mais je ne le savais pas. » Genèse 28-16. Dans cette pédagogie, la Bible ne fait que résonner. Elle parle, vibre, chante. La parole biblique est d'abord écrite pour nous faire réfléchir et reste toujours à traduire de génération en génération. Si on ne la mâche pas, si on ne la rumine pas, si on ne la questionne pas, on ne la comprend pas. Quand j'ai commencé à animer des ateliers, je n'étais pas formée. Dieu ne choisit pas ceux qui sont capables, mais il rend capables ceux qu'il choisit, avait dit le cardinal Lacroix, archevêque de Québec, en 2018. Je me suis portée bénévole en tant que maman cathé philo dans l'école primaire de mes enfants qui ont grandi aux Pays-Bas avec la méthode Montessori. J'avais à cœur de redonner une parole dont il s'était senti dessaisi en revenant dans le système français. Au début, je n'avais pas de compétences autres que l'authenticité. J'avais juste envie de faire dialoguer les enfants. On en revient à l'origine, parler à Dieu comme à un ami, et parler aux enfants comme des amis à qui Dieu parle. Et j'étais convaincue, comme l'a rappelé le directeur de la catéchèse en 2021, que le savoir-être est plus important que le savoir-faire. Ma formation théologique est née du questionnement de ces jeunes. Au cours des ateliers, je leur dis souvent « Vous venez de raffermir ma foi. » Et ce, peu importe leur religion. Tous me parlent de Dieu de la même manière. Certains commencent en disant « Je ne suis pas croyant, mais… » Ce « mais » en dit souvent long. Dans l'enseignement catholique pour la catéchèse, on sépare les enfants qui sont inscrits au catéchisme des autres, non-croyants, musulmans. Or, quand ces autres parlent de Dieu, cela suscite chez les catholiques une manière de dire leur foi qui est peut-être moins enseignée et apprise par cœur, mais beaucoup plus jaillissante. Le dialogue entre non-croyants, musulmans et catholiques est une richesse créatrice de vie qui fait tomber les préjugés. Il n'est alors plus question de haine puisque je connais l'autre. Et même si les jeunes se connaissent et sont parfois amis depuis des années, ils ne parlent jamais de Dieu, de religion, de leur questionnement métaphysique. Les professeurs me disent à chaque fois « Je ne le connaissais pas comme ça ». Au-delà de l'écoute active de ces jeunes, je guette le moment opportun pour rebondir à une parole et y introduire un repère biblique ou spirituel. L'échange et l'enseignement sont très complémentaires. Ce dernier n'est alors possible que parce que la parole a été libérée, parce qu'on a fait de la place pour une recherche. Dieu est une découverte, dit Maurice Zundel. Dieu ne s'explique pas, ne répond pas à une démonstration, n'est pas écrit à l'intérieur de manuel. Il sort de nos bouches, il surgit. À ce moment-là, je leur dis, ce qu'on vient de vivre, c'est Jésus. Et l'un ou l'autre de répondre que ça lui donne envie d'aller voir qui est Jésus. Cerise sur le gâteau, ce qu'on veut dire aux jeunes, ce sont très souvent eux qui nous le disent. Là, on est bluffé. L'Esprit Saint est au travail, c'est sûr. Pourtant, beaucoup de parents et de grands-parents s'inquiètent et me disent « Si les enfants n'ont pas la foi, comment vont-ils survivre ?» Leur démarche est souvent d'enseigner la foi. Or, le plus important, ce n'est pas de traîner les jeunes à la messe contre leur gré, mais de les questionner. « Pourquoi tu ne veux pas aller à la messe ?» Alors là, on ouvre une autoroute. Pas besoin de chercher nos mots ou nos formules justes. Il suffit d'oser croire qu'en l'enfant, devant nous, Dieu nous convoque. Et puis, aller à la messe en famille ne suffit pas. C'est souvent une excuse de bonne conscience qui nous prive de notre responsabilité de parents ou de grands-parents. Ce que je sème ne m'appartient pas, mais ma responsabilité, c'est de récolter la parole jaillie de la bouche des enfants et qui vient de Dieu. Depuis peu, j'anime aussi des ateliers pour adultes, notamment dans ma paroisse à Marseille. Nous parlons de tout, du mal, du pardon, des images de Dieu. J'appelle cela des ateliers de questionnement catéchétique. En Belgique, on m'a également demandé d'animer ce type d'atelier pour des personnes plus en périphérie de l'Église, comme des couples qui se préparent au mariage ou encore des parents non pratiquants qui demandent le baptême pour leur enfant. Plutôt que de profiter de ce temps pour leur enseigner un discours de sachant, je leur demande simplement « qu'est-ce qui vous amène ?» Ce message trouve un écho chez tout le monde, même si cela se manifeste parfois par des parades d'attaque ou de défense. Au-delà des religions, je crois qu'on vient toucher là le cœur profond. Dieu attend qu'on lui ouvre la porte. Comme sur la route des pèlerins d'Emmaüs, il est présent en chemin, mais n'est pas forcément reconnu comme tel. Quand j'ai commencé à animer des ateliers il y a 15 ans, je n'étais pas celle que je suis maintenant. Cette méthode me transforme, moi la première. En relevant seulement ce que je vois, je suis témoin de l'Évangile en acte. Je le reçois. C'est vraiment un don qui me donne la vie. Mais ce qui est premier pour moi sur ce chemin, c'est la prière. Sans elle, pas de relation, ni d'animation d'atelier. C'est important pour la prière en tant que telle, mais aussi pour la disposition d'esprit. Je dis d'ailleurs aux enfants que les messages qu'ils écrivent et qui sont lus pendant les ateliers sont des prières. Ça les met en mouvement. Je vois la joie sur leur visage et dans leur corps. Ces ateliers sont une matière vivante que je modèle sans cesse. Je suis toujours au travail. Actuellement, j'écris un manuel pour les animateurs en école ou en aumônerie, sortie prévue en mai 2023, afin de nourrir et réveiller leurs pratiques, mais aussi gagner en liberté. L'idée est de transmettre les outils pour animer un atelier en confiance. Ce qui peut faire peur, c'est l'absence apparente de règles dans cette méthode, alors qu'en réalité, le cadre est très défini. Mais ce qui se passe à l'intérieur de ce cadre ne nous appartient pas, et peu importe le niveau, il y a très peu de différence entre des classes de terminale ou de CE2. Le questionnement n'a pas d'âge, l'expérience est autre, mais l'authenticité permet d'enjamber les différences. Au même moment, je publierai aussi un manuel à destination des enfants et des ados pour les guider dans la découverte de la foi selon cette méthode. Dans le contexte ecclésial actuel, cette approche peut faire écho avec le souhait de beaucoup de catholiques d'aller vers davantage d'horizontalité, moins de hiérarchie, d'opacité. Retrouver une parole plus libre aussi. Cultiver le dialogue, la simplicité et le silence. Je crois qu'il faut rester à l'écoute de ce que l'Esprit-Saint attend de l'Église. Le besoin est immense. Mais je crois aussi que cela transcende l'actualité. Il s'agit avant tout d'un réveil intime, de la découverte d'une audace. J'aime à citer Christian de Chergé qui commentait ainsi la visitation. Marie porte en elle un secret vivant qui est encore celui que nous pouvons porter nous-mêmes, une bonne nouvelle vivante. Quelle belle métaphore de notre foi. Nous terminons, mes auditeurs, avec un petit aperçu de ce qu'est la catéchèse Montessori. La célèbre pédagogue italienne Maria Montessori, 1870-1952, a laissé un héritage en termes d'éducation scolaire, certes, mais aussi d'éducation religieuse. Le mystère de Dieu est une nourriture vitale pour l'enfant, plaidait ainsi à l'époque cette fervente catholique. En écho aux préceptes proposés dans certaines écoles, la catéchèse Montessori suggère de faire appel aux cinq sens des enfants, tout en leur laissant le choix de manipuler un matériel éducatif en libre accès. Dans l'atrium, une salle réservée à la catéchèse, reconstituant une église miniature, les enfants peuvent ainsi se familiariser avec du matériel biblique et liturgique, ou encore jouer avec des cartes de couleurs et des figurines représentant des prêtres, afin de mieux comprendre le déroulé de la messe. Amis auditeurs, merci pour votre écoute et à bientôt sur nos ondes dans notre prochaine émission.